Seigneur Dieu de grâce, nous tenons devant toi pour te dire merci pour la grâce que tu nous as encore donnée de pouvoir nous retrouver en ces lieux. Beaucoup ont espéré y être père, mais n'ont pu à cause de la grève. Que ta grâce s'étende en leur faveur et aide-nous aussi, nous ici, Père, pour nous instruire, pour nous conseiller, pour nous éclairer. Nous avons besoin de ton esprit, Père éternel, car sans lui, notre réunion est vaine. C'est pourquoi fais-nous cette grâce et merci au Dieu de miséricorde de nous soutenir, de nous éclairer en toutes choses, Père éternel, au Dieu. Nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Nous allons continuer ce qu'on avait vu la fois passée, c'était servir Dieu. Et aujourd'hui, ça sera comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc nous avons vu la semaine passée que pour construire le tabernacle et tous les ustensiles du tabernacle, Dieu a demandé à tout homme, à toute femme d'apporter une offrande volontaire. Donc la seule condition était que cela soit fait de bon cœur, c'est-à-dire tout homme dont le cœur était bien disposé pouvait apporter l'offrande. C'était pour construire le tabernacle de Dieu. Ce n'était pas pour un autre but. La Bible dit dans Exode 35, « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. » Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Nous voyons ici qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour la construction de la tente d'assignation du tabernacle. Il y a l'œuvre d'abord de la tente d'assignation, et puis il y a tous les services, et il y a aussi les vêtements sacrés. C'était beaucoup de choses à faire. Donc, je disais que dans le tabernacle devait être construit à partir des dons volontaires. Dire don volontaire, c'est comme une tautologie, car un don doit normalement être volontaire. Et cela doit être fait de bon cœur. Tout don donné à contre-cœur est comme un vêtement souillé. Vaut mieux ne pas en faire qu'en faire un sans que le cœur y soit. Le don est un mouvement volontaire du cœur sans contrainte. Un don est donné sans arrière-pensée, c'est-à-dire en ne t'attendant pas à ce qu'on te donne en retour ou en voulant en tirer un quelconque bénéfice ou alors dans une intention malveillante et sournoise. Il faut que le cœur soit entraîné et animé de bonne volonté. Nous voyons que l'œuvre était grande, il y avait l'œuvre de la tente d'assignation, les différents services et les vêtements sacrés. Pour ceux qui devaient travailler à exécuter ces travaux, qui devaient s'occuper de tous les ouvrages et des différentes tâches dans la maison de Dieu, nous avons vu que les conditions premières, avant toute considération intellectuelle ou technique, étaient être d'abord volontaire, être plein d'Esprit Saint et de sagesse, avoir un bon témoignage lorsque nous avons parlé de l'établissement des diacres. Et une fois que la personne remplit ces conditions, comment les choix étaient faits? Il y a trois façons que j'ai relevées pour pouvoir faire ces choix. La première façon, c'est par un appel au peuple. Moïse va solliciter tout le peuple en disant dans Exode 35, verset 10. Exode 35, verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Il appelle des gens qui ont de l'habileté, qui viennent pour exécuter ce que l'Éternel a ordonné. Moïse va demander à tous ceux qui ont de l'habileté de venir et d'exécuter tout ce que l'Éternel a ordonné. j'insiste sur tout ce que l'Éternel a ordonné. Des hommes et des femmes habiles se sont présentés. Ce qui veut dire que ces personnes, ils ne vont pas exécuter ces travaux comme ils voulaient. Non, non. Ils travailleront sous l'autorité de Moïse ou alors sous l'autorité de celui que Moïse aura désigné. Car Moïse était le seul à avoir le plan ou le modèle ou la vision. C'est lui qui l'avait. Et ceux qui devaient venir ne venaient pas pour gagner de l'argent. Si c'était le cas, alors leur motivation aurait été uniquement de l'argent et Dieu n'a que faire de cela. Ils ne venaient pas pour être populaires, non. Ils venaient parce qu'ils aimaient Dieu et ils aimaient le servir. Leur seule motivation était la gloire de Dieu. Cela alors change la façon de voir les choses. Ils venaient parce qu'ils étaient autour d'un projet fédérateur. C'est que Dieu devait venir habiter au milieu d'eux. Je peux comprendre que Moïse ait choisi des hommes selon l'intelligence et la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est quelque part la liberté du chef, du responsable, de choisir des hommes qui l'aideront à matérialiser la vision. Ça, c'était la première façon. Donc, il y a un appel. La deuxième façon, c'est par ordonnance divine. On va lire dans Exode 35. Exode 35. À partir du verset 30. Donc la première façon, c'est un appel. Les gens viennent et Moïse choisit ce qu'il veut pour travailler à l'œuvre. La deuxième, ça pourrait même être la première, c'est par ordonnance divine. Exode 35, à partir du verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaïlel, fils d'Iri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois » et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi les dons d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et les fins lins, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Ici est désigné ouvertement celui qui devait conduire les travaux ou qui devait exécuter les travaux. Dieu lui a donné une expertise dans un domaine ou dans plusieurs domaines. C'est la souveraineté de Dieu dans ses choix. Moïse n'avait rien à dire dans ses choix. Betsaïlel, le maître d'ouvrage, et Oholiab, son adjoint, ont été commissionnés par révélation. Ils ont été présentés à l'Assemblée pour qu'ils soient reconnus comme tels devant toute l'Assemblée. Et l'Éternel leur a accordé les dons d'enseigner. Il n'y a pas eu de vote de l'Assemblée. Mais nous voyons qu'il n'était pas seul, il y avait aussi d'autres hommes, ce sont tous les hommes habiles que nous avons vus plus haut, qui sont venus vers Moïse. Et ces hommes-là vont travailler donc sous la direction du responsable, parce que sans leader, chacun fait ce qu'il veut. On a vu ça au temps des juges, on voyait quand il n'y avait pas de juges, ben chacun faisait ce qu'il voulait. Ainsi, ils bénéficiaient aussi de l'encadrement et de l'enseignement. Nous avons vu avec Betsaïlel et Oholiab, je crois. Donc, ces deux-là, Dieu leur a donné la capacité d'enseigner. Donc, ils devaient enseigner aux hommes habiles comment faire les choses. Et ce qu'on devait retenir, tous ces hommes habiles, ils devaient se conformer à une seule vision et faire tout selon la vision, selon le modèle. On va lire dans Exode 36, à partir du premier verset, non, versets 1 et 2. Betsaïlel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Verset 2, Moïse appela Betsaïlel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligance, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant, donc on continue, verset 3, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire. Oui, donc, au 4, alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans les camps que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà par tous les ouvrages à faire. Donc ici on voit, lorsque tout ce qu'ils ont apporté, ils ont vu qu'il y en avait tellement trop, ils ont dit bon, mieux vaut arrêter parce que ce qu'on avait déjà était suffisant pour la construction du tabernacle et tous les ustensiles. Désolé. Voilà. Donc, tous les hommes, tous ces hommes habiles se mirent donc à l'œuvre. Leurs noms de ces hommes habiles ne sont pas cités, mais ils travaillaient sous la direction de Betsaïlel. Et on peut lire, vous pouvez lire les chapitres 37 et 38. Il n'est parlé que de Betsaïlel. Si vous lisez ça, vous verrez. Il fit l'autel, il fit la table de bois, il fit, et chaque fois il est répété, il fit. C'était un travail exclusif de Betsaïlel. Évidemment, il avait de l'aide. C'est comme si l'Éternel ne voulait pas que d'autres fassent cela. Probablement, cela demandait une haute technicité et des qualités artistiques exceptionnelles. Si on lit dans Exode 38, à partir du 22, Betsaïlel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Lorsque je lisais ce chapitre, quelque chose m'a poussé à m'interroger en lisant Exode 38, verset 8. Exode 38, verset 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Le miroir, comme nous le savons, est un accessoire très important pour les femmes. Le miroir les aide à se faire belles. Et c'est avec les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation que la cuve fut faite. Si les miroirs des femmes étaient pour leur beauté physique, la cuve où il y avait l'eau utilisée par les sacrificateurs pour se laver avant ou après le service devait signifier encore plus. La cuve est le symbole de la parole de Dieu où tu dois te regarder constamment pour te faire belle ou beau spirituellement. La parole de Dieu, il est dit, est comme un miroir. Et c'est la cuve qui a été utilisée, ou les miroirs ont été utilisés pour la cuve. Mais il y a aussi une réalité plus profonde, ou en tout cas une réalité pour l'homme et sa femme. Autant la femme aime les miroirs, autant l'homme devait aimer sa femme, car la femme est un miroir spirituel pour son homme. Il y a un pasteur qui a dit un jour, « Si tu veux savoir si un homme est sauvé, demande à sa femme. » Bien, revenons aux femmes devant la tente d'assignation. C'est étrange qu'elles s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation et peut-être accueillaient-elles ceux qui venaient à la tente, je ne sais pas. Il n'est pas dit qu'est-ce qu'ils faisaient à l'entrée de la tente, mais il me semble qu'elles étaient vraiment préoccupés par leur beauté. Au point où le fils du sacrificateur Élie, lorsque nous allons plus loin, étant des hommes pervers, avait commerce avec ses femmes. Ils étaient des sacrificateurs, ils avaient perdu leur dignité et leur honorabilité au point où c'était connu, mais ils s'en fichaient de tout cela. Je crois que la fois passée, j'ai parlé de honorables au Congo et des excellences. Pour la plupart, ils sont juste honorables et des excellences de nom. Le fait de servir dans la tente d'assignation ne les ont pas immunisés contre les péchés. C'est la crainte de Dieu qui te rend vainqueur. Pour les autres travaux du tabernacle, la Bible dit au chapitre 36, versets 14 et 37, vous pouvez aller lire, on ne va pas lire, et au chapitre 39, quand vous lisez, vous verrez qu'il n'est plus parlé explicitement de Betsalel. On dit seulement, on fit les vêtements d'office pour les services, on fit l'éphod d'or, et chaque fois, on fit. Pour Betsalel, il était marqué, il fit. Mais ici, on dit juste, on fit. Sans plus de précision. Il n'est pas clairement dit ce qui exécutait ces travaux. On peut supposer que c'était tous les hommes à qui on enseignait comment faire les choses. Il me semble que la Bible fait une distinction entre les ouvrages exécutés par Betsaïlel et les autres. Quoi qu'il en soit, si Dieu a donné de l'intelligence et de l'habileté aux autres pour faire ce qu'ils doivent faire, c'est au responsable de pouvoir reconnaître cela et les aider à comprendre et à rentrer dans la vision. Une direction claire aide à avancer. Dans Exode 36, premier verset, Betsaïlel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Comment ont-ils exécuté tous les travaux selon ce que l'Éternel avait ordonné? C'est parce qu'ils avaient compris la vision. Nous avons dit que c'est Moïse qui avait le modèle. Mais il fallait, pour que ceux qui devaient faire les ouvrages, ils devaient avoir la vision de Moïse. Et certainement, Moïse venait aussi inspecter pour voir que le travail est fait selon le modèle. Ils avaient une certaine liberté dans les travaux, mais la liberté dans les travaux n'exclut pas les contrôles. C'est le responsable qui a la vision, mais ce sont les collaborateurs qui l'aident à la matérialiser. Comprendre la vision ou une partie de celle-ci selon les attributions est essentiel pour l'exécuter correctement. Donc, nous avons vu avec il y a trois façons de faire les choses, le choix de ceux qui doivent travailler, soit par inspiration divine, soit par choix du chef, mais il y a une troisième, c'est soit par l'Assemblée. L'Assemblée est souveraine. Nous avons vu la semaine passée qu'avec la distribution de nourriture, il y avait des problèmes avec les veuves des hellénistes. On va relire acte 6 à partir du premier verset. Donc acte 6, dont nous voyons les trois façons, par révélation divine, par les choix du chef et enfin par l'Assemblée. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils étaient 7. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ici, ils ont été élus par l'Assemblée. La proposition faite par les apôtres pour résoudre ce problème racontera l'assentiment de toute l'Assemblée des disciples. 7 hommes ayant un bon témoignage et des gens plein d'Esprit Saint et de sagesse furent choisis pour servir aux tables. Et l'Assemblée tout entière procéda à l'élection de ces 7 hommes. Ce sont les 3 façons que moi j'ai pu relever. Peut-être qu'il y en a encore d'autres, mais c'est ce que j'ai pu relever. Et c'est comme ça que quelqu'un peut rentrer en service. Voyons maintenant, après la fin de la construction du tabernacle, comment l'Éternel a agréé l'œuvre dans Exode 40. Vous lirez à la maison Exode 40, il y a tellement de choses. Je vais juste relever quelque chose d'une importance capitale dans Exode 40, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. L'Éternel parla à Moïse les premiers jours du premier mois, comment les choses devaient se passer pour qu'il vienne faire du tabernacle son habitation au milieu d'eux. C'est l'Éternel qui lui dit comment les choses devaient être faites, les placements des mobiliers et tout le reste. Comme j'avais dit, il n'y a pas de place pour la pensée personnelle de Moïse. Au verset 16, il est dit « Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. » Combien on est béni et en paix lorsque tout est fait selon ce qu'on nous a demandé. C'est un sentiment de satisfaction et de plénitude. Bien, le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. C'est exactement un an après que la parole de Dieu soit prononcée. Ça, vous pouvez lire dans Exode 40, au début. Maintenant, si nous lisons Exode 40, à partir du verset 17 jusqu'à 33, c'est un peu long, mais il y a des choses très intéressantes dedans. Le premier jour du premier mois de la seconde année, donc c'est 1-1, hein, c'est 1-1-2, c'est la deuxième année lorsqu'ils sont, quand ils sont sortis de l'Égypte. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous verrez que dans les textes, quand on va lire, ça va revenir constamment. Il prit les témoignages et les plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa les propitiatoires au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit les voiles de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça les chandeliers dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il y fit brûler les parfums odoriférants, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça les rideaux à l'entrée du tabernacle, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et il y offrit l'holocauste à l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse et Aaron et ses fils y lavèrent les mains et les pieds lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel. Ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Dans ce texte qu'on a lu, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, je crois que c'est revenu 8 fois. Et si Dieu insiste comme l'Éternel l'avait ordonné, c'est que ça a une importance. Les choses doivent être faites selon le modèle et pas autrement. Et c'est comme ça, Moïse, pour chaque ustensile... Fabrice, tu peux projeter la première image? Donc, pour chaque article, on a ici l'autel de sacrifice, on a la cuve, on a les chandeliers... On a la table de pain de proposition, on a l'autel de parfum et on a l'arche. Et là, on peut voir clairement que chaque fois que Moïse plaçait le mobilier ou les ustensiles, l'Éternel répétait comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Et ceci est important pour nous tous. Faisons les choses comme l'Éternel l'a ordonné. Je répète, faisons les choses comme l'Éternel l'a ordonné. Et c'est ainsi que l'œuvre fut achevée. Mais quand l'œuvre étant achevée, Dieu qui est le propriétaire du tabernacle, c'est sa maison, hein, le tabernacle c'est la maison de Dieu, avant de prendre possession, Moïse devait être sûr que tout est fait selon l'Éternel, parce que l'Éternel devait venir. Et si l'Éternel voyait quelque chose qui n'était pas comme il se devait, ben il n'entrait pas. Alors il ne devait pas s'installer au milieu d'eux. Et alors là, ça aurait été catastrophique pour eux. Donc je disais, il était nécessaire d'inspecter que chaque chose était faite selon les propriétaires. C'était la maison de Dieu et Dieu seul pouvait dire s'il était satisfait. Pas Moïse, c'est Dieu qui pouvait dire que c'est comme ça dans ta maison. Si tu achètes une maison, c'est toi qui dois dire que je suis satisfait de la maison que j'ai achetée. Ou des travaux que tu fais, tu dis, ben, les ouvriers qui sont passés ont fait les choses comme je leur ai demandé. Nous pouvons nous rendre compte de la responsabilité de Moïse. Je crois qu'il a dû vérifier et revérifier les choses pour être sûr que c'est fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Car la vie et l'avenir d'Israël dépendaient. Hein, ça dépendait vraiment de cela. Comment l'Éternel va-t-il agréer sa maison? Lisons dans Exode 40, à partir du verset 34 jusqu'à 38. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait les tabernacles. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus les tabernacles. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était des jours sur le tabernacle et des nuits, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. C'est comme si Dieu venait inaugurer sa maison et désormais il était au milieu de son peuple. Et dès ce jour-là, il n'a plus quitté. Parce que Dieu a agréé ce que Moïse a fait. Remarquez que la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Dieu remplit le tabernacle entier. Tout le monde est sorti à cause de la gloire de Dieu et il n'y avait plus de service. C'est le type du baptême du Saint-Esprit. Nous voyons la même scène qui va se répéter lors de la construction et de la consécration du temple par Salomon. C'est David qui avait reçu le plan du temple et il en a fait la préparation en assemblant tout ce qu'il fallait par des dons volontaires des enfants d'Israël. Les tabernacles, dons volontaires, les temples, dons volontaires. Salomon était encore jeune et inexpérimenté et il lui a rendu la tâche moins difficile. Salomon ne devait que vraiment construire. Il n'y avait plus grand-chose à faire parce que le papa avait rassemblé tout. Cela, vous pouvez le lire dans 1 Chronique 29, 1 et 2 et 6. Quelle est la date du début des travaux de construction? Puisque le temple devait être construit, nous avons vu que pour le tabernacle, la date du début, c'était le premier, du premier, le premier du premier, le premier jour du premier mois, et je dirais l'an 2. Ici, on lit dans 2 Chroniques 3, versets 1 et 2. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem sur le mont Morija. Il était apparu à David son père. David y avait préparé un emplacement pour l'aire d'ébattage d'ornans, les Jébusiens. Remarquez le mont Morija, c'est là où Abraham a voulu sacrifier Isaac. Il commença la construction le deuxième jour du deuxième mois du quatrième année. Donc, si on voit, là, c'était le 2 du 2 du 4. Ce n'est pas par hasard. Hein? Il y a des raisons pour lesquelles cela a été fait ainsi. On ne va pas rentrer là-dedans. Donc, Salomon commença à bâtir le deuxième jour du second mois de la quatrième année. Quatrième année de l'arrivée de Salomon au trône. Alors que Moïse eut l'ordre de bâtir le tabernacle le premier du premier mois de la seconde année. Si vous multipliez par deux, vous arrivez exactement à ce que Salomon a fait. Bien, donc, Moïse eut l'ordre de bâtir le tabernacle le premier du premier mois de la seconde année. Ces dates ont des significations et ce n'est certainement pas un hasard. Si on lit au verset 11, au moment où les sacrificateurs sortirent, donc c'est dans Chronique, hein, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Eman, Jedutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales. Ils étaient à l'orient avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Remarquez ici, ils s'étaient unis d'un même accord. Très important. Ils étaient dans un même accord pour célébrer et louer l'Éternel. Et on voit que la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avec les tabernacles. La nuée couvrit les tabernacles et Moïse ne pouvait plus, et tous les sacrificateurs ne pouvaient plus servir dans la tente. L'inauguration du temple eut lieu au septième mois et Salomon mit tout en place selon les instructions que lui avait laissées son père David. C'est pendant le septième mois, et le septième mois, pour ceux qui connaissent un peu les fêtes de l'Éternel, le septième mois, c'est il y a la fête des tabernacles. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel vient habiter dans les temples. Bien, il y avait 120 prêtres qui sonnaient des trompettes. Ceci nous rappelle les jours de la Pentecôte. Ils étaient 120 dans la chambre haute. C'est pour vous dire que ce qui s'est passé là, c'était aussi le type du baptême du Saint-Esprit. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Je disais que c'était un type du baptême du Saint-Esprit. C'est exactement ce qui s'est passé lors de l'inauguration du tabernacle dans le désert, montrant que Dieu a agréé le travail qui avait été fait. Et souvenez-vous que le tabernacle a été remplacé par le temple. Lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, ce n'était plus une structure mobile, mais le temple, c'est une structure immobile. Et la gloire de Dieu descendit dans la maison. Quelque chose doit se passer lorsque Dieu agrée son temple. Absolument. Quelque chose doit se passer. Maintenant, il ne s'agit plus de construire un temple physique, mais plutôt un temple spirituel. Et tu es le temple de Dieu. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Fabrice, tu peux projeter l'autre image. Hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce qui veut dire que la nuée, la gloire de Dieu doit remplir le temple entier. Quand je parle du temple entier, il s'agit de l'esprit, de l'âme et du corps. Cette structure ici, c'est exactement la même chose. Mettez ici le corps, l'âme et l'esprit. Et la gloire de Dieu doit remplir ces trois domaines ou ces trois pièces. Si on lit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. J'aime beaucoup le tabernacle parce que le tabernacle nous donne quasiment, on a quasiment des mêmes structures, des mêmes schémas qui reviennent. Ici, donc, le tabernacle, l'homme est un tabernacle ou un temple, et on trouve donc le corps de l'homme, son âme et son esprit. Si Dieu le veut, on verra peut-être une autre fois la correspondance entre l'homme et le tabernacle. Maintenant, pour qu'il y ait temple, il faut le construire. La construction du temple spirituel passe par trois étapes. Il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Le frère François parle ces derniers temps de cela. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux juste relever, c'est que c'est le Saint-Esprit lui-même qui construit le temple que tu es par la parole de Dieu. Le sacrifice a eu lieu, tu n'as plus besoin d'amener les animaux lors de l'inauguration de l'œuvre. Il faut juste faire comme Dieu veut pour que la nuée couvre le temple et que la gloire de Dieu remplisse le temple. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est Dieu qui est descendu habiter au milieu de son peuple. C'est ce que nous avons vu dans le tabernacle et le temple. Et c'est Dieu qui descend pour habiter en toi. Puisque Dieu habite en toi, la gloire de Dieu dans le temple que tu es est permanente. C'est ce que nous avons vu lorsque la gloire de Dieu est descendue. Et la nuée a couvert le tabernacle, la nuée n'a plus quitté le tabernacle jusqu'à ce qu'il rentre dans la terre promise. Et c'est ainsi aussi avec le baptême du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, la nuée ne peut plus te quitter jusqu'à ce que on soit enlevé. Bien. Donc, je disais que c'est Dieu qui descend lui-même habiter au milieu de son peuple et c'est Dieu lui-même qui descend habiter en toi. Et que la gloire de Dieu en toi est permanente. C'est pourquoi l'apôtre Paul donne cette recommandation dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce sont les choses qui attristent le Saint-Esprit. Attrister ne veut pas dire partir. Si le Saint-Esprit est attristé, c'est à toi de demander pardon pour que le Saint-Esprit soit content. Pour conclure, tu veux que la gloire de Dieu vienne habiter en toi. Il y a quelques conditions. Il faut que tu te donnes volontairement. En effet, pour construire le tabernacle ou le temple, ils ont donné volontairement des offrandes. Pour que tu deviennes le temple de Dieu, il faut premièrement que tu te donnes toi-même volontairement. Personne ne peut t'obliger. Deuxième chose, pour construire chaque ustensile du tabernacle, selon le modèle, c'est Dieu lui-même qui a montré le modèle à Moïse. Il en est ainsi. Pour que tu deviennes le temple de Dieu, il faut que le Saint-Esprit te conduise à travailler au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Et le modèle qui a été donné une fois pour toutes, c'est Jésus-Christ, le divin modèle. Il faut laisser le Saint-Esprit te guider dans le travail de construction. Troisième chose, pour construire chaque ustensile du tabernacle, cela a demandé de l'intelligence, de l'effort et de l'investissement. Parce que les gens ont dû travailler, ils ont dû travailler les différents matériaux, parce que Dieu leur a donné l'intelligence et Dieu leur a donné la force. Dans 2 Pierre, 2 Pierre 1, à partir du verset 3, l'apôtre Pierre dit de faire tous vos efforts. Il n'y a pas à croiser les bras pour dire, bon, le Saint-Esprit viendra et puis moi je suis assis. Non. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est déjà donné, hein? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un effort à fournir. Personne ne doit bâtir l'œuvre de Dieu comme il veut, selon ses sentiments ou selon sa compréhension. Il y a toujours un modèle et il faut bâtir selon le modèle. Et ce n'est qu'après que chaque chose soit construite, que chaque chose soit construite selon le modèle, et que chaque chose soit placée à la place qu'il faut, que la gloire de Dieu descend. Autrement, descend pas. Il faut que tout soit parfait. Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur Dieu, nous nous rendons compte, Père, ô Dieu, que si tu es venu habiter au milieu de ton peuple, c'est parce que tout a été fait comme toi tu l'as ordonné. Et cela est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Tout doit être fait selon le modèle si nous voulons que la gloire de Dieu descende en chacun de nous et au milieu de nous. Et c'est pourquoi, Père, nous venons à toi, Père, ô Dieu, parce que c'est toi qui nous fais comprendre les modèles. C'est toi qui nous ouvres l'intelligence pour comprendre les modèles. Car sans comprendre, Père éternel, il est difficile de bâtir comme il se doit, Père éternel, ô Dieu. Et c'est pourquoi nous t'appelons, Père, pour nous éclairer, afin que tout ce que nous faisons, Père éternel, le soit selon toi, Père éternel, ô Dieu, pour que la gloire de Dieu puisse, ô Dieu de miséricorde, descendre et habiter en chacun de nous, Père éternel, ô Dieu, car cela garantit, Père éternel, ô Dieu, d'une rencontre avec toi, Père éternel, c'est la garantie d'un salut éternel, Père éternel, ô Dieu. C'est pourquoi nous nous attendons à toi, Père éternel. Merci, Père éternel, de nous aider à nous conformer à tout ce que tu prescris, Père éternel, ô Dieu, car en cela, Père éternel, ô Dieu, tu viendras toi-même habiter en nous, Père éternel, ô Dieu, et alors nous marcherons, Père, selon la pensée de Dieu et non selon nos propres pensées. Merci, Père éternel, pour l'occasion que tu nous as donnée, ô Dieu. Merci, Père éternel, ô Dieu, d'aider chacun à aller méditer ces choses, Père éternel, ô Dieu, car, ô Dieu de miséricorde, ce sont des secrets que toi tu nous révèles, Père éternel, pour que la gloire de Dieu soit au milieu de nous, Père éternel. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour envers nous. Nous nous attendons à toi. Maintenant, ô Dieu, prends chacun par la main et conduis-nous, Père, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. J'ai une requête. Il y a, pour ceux qui connaissent le frère Clément, il a été hospitalisé dimanche, je crois. Il a fait une crise et on l'a mis dans un coma artificiel. Et Dieu vraiment puisse mettre sa main pour qu'il puisse le sortir de cette situation. Et souvenez-vous de lui dans vos prières.
C'est le prédicateur?
Non, non. Non, non, il n'est pas prédicateur. Non, non. Ceux qui le connaissent, c'est le neveu de frère Paul. Ceux qui le connaissent, certainement vous l'avez déjà peut-être vu ou pas, je ne sais pas. Mais bon, c'est une requête que je donne, que Dieu vraiment puisse mettre sa main. On va prier et souvenez-vous de lui aussi dans la maison. Bien-aimé Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes d'invoquer encore ton nom pour ce cas, ô Dieu de miséricorde. Seigneur, nous les hommes, nous sommes limités, Père, mais tu nous as dit de prier, Père, et c'est pourquoi nous nous unissons dans la prière, Père, et te demandons, ô Dieu de grâce, de nous faire grâce, Père éternel, afin que ta main bénie, ô Dieu, et ta main guérissante puisse les toucher là où il est, Père, et les sortir dans cette situation difficile dans laquelle, ô Dieu, il est plongé. Nous comptons sur toi, Père éternel, parce que c'est toi qui guéris et c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains, Père éternel, ô Dieu. Reçois honneur, louange et gloire, Père éternel, ô Dieu. Maintenant, Père, nous arrivons au terme de cette rencontre. Que la grâce de Dieu nous accompagne, Père, pour nous garder de tout mal, nous préserver de tout danger, Père éternel, ô Dieu. Merci pour tout, Père. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi la puissance au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu aille avec vous.